On parle beaucoup depuis le début de la pandémie des élèves en difficulté d'apprentissage parce qu'on les a tous eu en tête par rapport au fait qu'on devait mettre l'école en pause. Au début, c'était des vacances, mais finalement, l'école à distance. Et ça a été un grand souci pour tous les parents concernés, pour tous les professeurs qui voulaient pas échapper ces élèves-là. Il y a un ouvrage qui vient d'être publié tout récemment qui s'appelle « Non aux étiquettes ». C'est signé Martine Latulippe et Phil Poulain. Et ça nous offre 18 témoignages qui donnent envie de persévérer avec un trouble d'apprentissage. Sur le titre, il y a un gros X sur le « malgré un trouble d'apprentissage ». Puis j'aime ça qu'on l'ait rayé volontairement, bien sûr, parce que il faut composer avec ce qu'on est, avec ce que nous sommes. Et tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet ouvrage, donc, le font bien candidement et parlent de leurs difficultés d'apprentissage, déficit d'attention dans certains cas, comment ils ont composé avec ça, comment ils ont réussi à avancer dans la vie. Et notre prochaine invitée est l'une de celles qui témoignent dans le livre. Et elle nous a prouvé qu'elle pouvait réaliser de grandes choses avec son trouble d'apprentissage dont j'ignorais l'existence. Il s'agit de la navigatrice, notamment. Je dis navigatrice parce qu'elle est bien autre chose, mais c'est comme ça qu'elle est apparue dans l'œil du public. Madame Mylène Paquette. Mylène Paquette, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va bien. Oui, ça va super bien. Et vous?
Oui, ça va bien. Je vous remercie. Quel était votre trouble d'apprentissage? Est-ce que c'était assez général ou c'était quelque chose de bien précis, Madame Paquette?
Oui, ben j'ai toujours un déficit d'attention et un peu hyperactif quand j'étais jeune, peut-être, mais pas si marqué. Mais c'est plutôt la dyslexie qui n'a jamais été diagnostiquée jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans où là j'ai fait des tests de pour voir si j'étais dyslexique. Puis là, c'était assez flagrant là, que j'avais travaillé avec la dyslexie toute ma vie. Donc, j'ai toujours trouvé des stratégies super efficaces pour me débrouiller malgré ce problème-là. Mais j'étais certaine d'être dyslexique. J'avais pas besoin d'un diagnostic précis pour ça, là. Mais ben voilà. Donc, dyslexie, possible dysorthographie aussi, mais surtout, ben, trouble d'apprentissage dans le sens déficit d'attention.
Et j'aimerais ça que vous me donniez des petits exemples de situations. Quand on se rend compte de quelque chose, ça, c'est spécial quand même, hein, j'imagine. T'sais, même si on a des doutes par rapport à un déficit d'attention, moi aussi, j'ai eu ce diagnostic-là les dernières années, ouais. Mais je l'ai réalisé à travers mes enfants, parce que sinon, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à ça. Alors vous, la prise de conscience, qu'est-ce que ça a provoqué?
Ben, la prise de conscience d'abord comme une idée du diagnostic, ben, ça expliquait bien des choses, mais moi, je me rendais compte que j'avais un problème. Par exemple, j'en témoigne dans le livre, tu sais, les chambres des patients. Quand je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine comme préposé aux bénéficiaires, tu sais, je me répétais constamment où j'écrivais. Vraiment, tu sais, dans le rapport des infirmières, j'écrivais le numéro de chambre des patients, puis les infirmières me regardaient écrire, puis disaient, t'écris pas le bon numéro. Ah, OK, c'est pas super. Ben, voyons, tu m'as dit la chambre 19, j'écrivais la chambre 91. Ou, tu sais, j'inversais les chiffres. J'écrivais la chambre 61 pour 91. Tu sais, j'inversais certains nombres, certains chiffres. Donc, ça pouvait porter préjudice au patient parce que je me rendais bien compte que j'avais pas le bon patient entre les mains pour faire un soin. Mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas ou sonner à une adresse, aller rejoindre quelqu'un chez une adresse, le nombre de fois où je me suis trompée d'adresse dans ma vie. Mon Dieu, c'est l'histoire de ma vie.
Ah oui?
C'est, tu sais, cogner à une adresse. Mon ami qui déménage, qui me dit ma Honda est dans l'entrée, tu vas la reconnaître, tu sais. Puis je suis à 5 maisons de l'adresse où il m'a donné, puis je cogne, puis je me dis, ben voyons, comment ça, c'est pas la bonne auto qui est dans l'entrée? Puis je finis par cogner à la porte. Effectivement, je regardais mon papier, je regardais le numéro de porte, puis je voyais le même numéro, mais c'était pas du tout le même numéro. Donc, ouais, ça arrive moins aujourd'hui avec les numéros de téléphone parce que tout est enregistré. Oui. On appuie sur le téléphone dans le courriel qu'on reçoit. Pour vous appeler ce soir, j'avais le numéro dans le courriel. T'sais. Donc, ça arrive moins, mais il y a 10 ans à peine, ça arrivait tellement régulièrement à inverser des chiffres. C'était vraiment, vraiment très, très fréquent.
Est-ce que ça vous a déjà rendu, Mylène Paquette, impatiente envers vous-même, la répétition de ces mêmes situations? Avez-vous déjà eu un moment donné une situation où, tu sais, comme ça vous mettait dans des situations que vous ne vouliez pas qu'il arrive, mais veut pas, ça arrivait? C'est-tu déjà arrivé?
Oui, surtout quand je me trompe pas de numéro de téléphone, là, c'est assez gênant de rappeler deux fois la même personne qui me dit parce que c'est pas le bon numéro, tu me l'as dit ton numéro, puis c'est pas là que tu appelles, tu sais. Ça peut être très gênant, puis ça peut être c'est gênant de on se sent pas notre meilleur, en fait. On se sent pas dans notre plein potentiel à cause de ça. T'sais, on sent qu'on a comme un petit boulet qu'on traîne puis qu'on se comprend pas nous-mêmes, donc on comprend les autres de pas nous comprendre. Mais oui, c'est pas toujours facile de vivre avec ça. Puis tu sais, il y a 20 ans, on parlait pas tellement de dyslexie. Il y a 30 ans, là, moi, j'ai 41 ans, donc quand j'étais à l'école primaire, on m'a jamais dit que t'es probablement dyslexique. Mais je voyais bien que j'avais de la difficulté avec les chiffres ou les lettres. Puis même quand je vois des acronymes, moi, TDHA, je dis toujours TDHA. Je dis pas TDAH, je me trompe tout le temps. Donc, ça prouve que je suis dyslexique un peu.
C'est intéressant que vous en parliez avec candeur, avec humour, puis avec une petite légèreté, tant mieux. Est-ce que y a-t-il des traces, des cicatrices, des blessures par rapport à l'enfance, des fois? Y a-t-il des affaires négatives par rapport à ça?
Ben, c'est plus que quand on est jeune, on pense qu'on n'est pas intelligent, parce qu'on comprend, on pense qu'on comprend pas comme les autres, mais c'est pas ça. C'est juste qu'on a un petit problème à bien voir les chiffres ou bien reproduire les lettres.
Oui.
Donc, on pense peut-être que c'est difficile de développer la confiance quand on est jeune et qu'on n'est pas accompagné là-dedans. Mais moi, je trouve que, autant il y a des petites blessures dans l'enfance, mais je trouve que ça m'a rendue persévérante. Donc, ma persévérance vient peut-être d'un problème que j'avais à la base. Ma mère m'a répété tellement souvent quand j'avais des difficultés scolaires, t'es persévérante, t'es une fille persévérante, t'es persévérante, que j'y ai cru. Puis j'ai toujours répété pour moi-même que je suis une fille persévérante. Donc je suis devenue, puis vous voyez, j'étais capable de faire des choses
incroyable.
Qui demandaient beaucoup de persévérance, c'est ça. Donc je pense que ma mère a été très importante dans ce cheminement-là, parce que elle l'a pas, si on avait eu un mot, une maladie ou un déficit d'attention, ou tu sais, un terme, une terminologie pour me caser, pour m'étiqueter, je pense que je me serais peut-être même rangée derrière ça en disant, ben moi, c'est pas de ma faute, j'ai ça. Donc, ma mère, puis on n'a jamais utilisé d'étiquette dans ma famille, puis j'allais dans une classe une année, là, durant mon école primaire, j'allais, comme il y avait une prof, une spécialiste là, qui venait me chercher. Donc, moi, je pensais que c'était comme une journée où j'étais récompensée, puis que les autres n'étaient pas récompensés. Moi, c'était cool, j'allais avec cette prof-là, différente.
C'est bon, ça.
On était juste six élèves, puis on faisait du bricolage, puis on apprenait différemment, puis j'avais bien du fun. Mais tu sais, jamais à la maison, on parlait de c'était comment dans cette classe-là, est-ce que c'était de la peine de ne pas être avec tes amis. Tu sais, jamais on a mis l'accent là-dessus, donc j'ai jamais vraiment senti que c'était un boulet. Tu sais, des fois, je le sens dans ma vie adulte, là, mais quand j'étais jeune, non. Donc, je pense que ça m'a définie, d'abord et avant tout, ce petit... ben, je dis que c'est un petit, parce que si on le compare à beaucoup de personnes chez qui ça va vraiment les freiner, chez qui ça va vraiment être accaparant, handicapant, moi, je trouve que le mien, c'est un petit problème, oui.
Oui, bien, raconté comme ça, mais pour vous, c'était quand même le problème que vous aviez, fait que c'est pas si petit que ça, mais je comprends par rapport, quand on se compare, comme on dit, mais je trouve ça plaisant puis très agréable que vous, d'autres personnalités connues, aient accepté de témoigner dans ce livre-là qui est destiné à un jeune public, je pense, de la manière que c'est présenté, ça se lit très bien.
Oui, et tous ceux
qui sont à l'écoute, des parents, qui on est plusieurs là, de générations plus vieilles qui avons découvert trop tard qu'on avait des déficits d'attention.
Oui.
On a des enfants qui en ont parfois, qui ont des troubles d'apprentissage. Et là, on a quelqu'un comme Mylène Paquette qui a vécu ça, tel que vous venez de nous le raconter. Ça vous a pas empêché de poursuivre vos études, d'aller chercher un diplôme, de travailler, puis ensuite de vous attaquer à des projets comme la traversée de l'Atlantique en solitaire. Alors, comme message d'espoir que, même si on manque de confiance quand on est jeune, pour toutes sortes de raisons qu'on peut, tu sais, quand on dit traverser, c'est assez exceptionnel comme témoignage.
Oui, puis tu sais, moi, j'ai donné quoi, peut-être 600 conférences là, depuis ma traversée, donc je suis beaucoup en entreprise, dans les congrès, donc tu sais, des fois, je me dis, aïe, je parle quand même devant des milliers de personnes, puis j'ai un déficit d'attention, puis je suis capable de mener tous ces gens-là dans mon bateau durant les 45 minutes que je passe avec eux, ou l'heure et demie que je passe avec eux, puis je me dis, ben Colin, c'est pas si pire que ça, mon problème, tu sais, c'est pas un problème en soi, je pense que ça m'a aider à développer d'autres aspects de ma personnalité que c'est tu sais, quand j'aime beaucoup que sur la page couverture, justement, que ce soit rayé le malgré, parce que c'est pas malgré.
Oui.
C'est justement, on persévère avec un trouble d'apprentissage, vraiment. On apprend à donner le meilleur de nous-mêmes, même si ça, c'est présent, en dépit de, Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est vraiment un super livre. Là. Il y a des belles caricatures. Il est vraiment fait pour un public là, d'adolescents, de préadolescents. Puis on apprend, par exemple, je peux vous parler d'une autre personnalité là, qui est dans le livre. C'est Philippe Meunier, le fondateur de Sidley. C'est quand même une entreprise là, de 600 employés, super connue à l'international. Ben lui, ben il avait vraiment un TDAH, puis il y a de la dyslexie. Donc, il s'est vraiment développé. Il y a plein d'autres personnalités super inspirantes. Puis on les reconnaît dans les petites... Les dessins, c'est super le fun. Puis justement, pour un jeune qui a ces problèmes-là, c'est facile à lire. Les lettres sont grosses.
Oui.
c'est agréable, il y a de la couleur, c'est vraiment le fun.
Ouais, non, bravo, c'est un bel ouvrage, franchement. Nous sommes en conversation avec Mylène Paquette, navigatrice et conférencière. Elle a traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, 5000 kilomètres en 129 jours. Quel exploit! J'ai évidemment, je pense que tous les auditeurs ont comment dirais-je, je pense que ça nous a tout fait de quoi quand on a entendu tout à l'heure que vous avez été préposé aux bénéficiaires, alors qu'on parle beaucoup de ce métier-là, de cette profession-là, depuis qu'on est en pandémie, en COVID. Est-ce que ça vous a interpellé, tout ce à quoi on assiste par les nouvelles, tout ce qu'on sait de la réalité des CHSLD? Ah, oui. Donc, je ne sais pas si vous étiez en résidence personnes âgées ou en milieu hospitalier, mais comme ancienne préposée aux bénéficiaires, comment avez-vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Ah, moi, je me rappelle d'avoir... en fait, quand j'ai fait mon cours en 2001, c'était un cours à l'époque qui était très bref. Hein, c'était 2 semaines pratiques, 2 semaines théoriques. Puis, aussitôt que j'ai été embauchée dans le système, ça a changé. Le cours était de 7 mois ou même 14 ou 21 mois. Je me rappelle plus exactement, mais maintenant, c'est un cours qui est quand même... Les préposés qui sont fermés aujourd'hui étaient probablement pas mal meilleurs que moi quand je suis sortie de l'école en 2001. Moi, j'avais fait des stages avec les personnes âgées. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à comprendre la personne vieillissante et tout ça. Puis j'avais beaucoup, beaucoup aimé ça. Puis après, j'avais travaillé à l'hôpital Saint-Luc et j'ai travaillé ensuite 10 ans à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, j'étais comme dans un département, dans plusieurs départements différents, mais dans un hôpital qui est quand même un hôpital chouchou hein, au Québec. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins fort là-bas. Ça veut même dire que des fois, c'est encore plus bouleversant là, ce qu'on peut rencontrer comme situation. Mais peu importe l'établissement où est-ce qu'on travaille, le préposé aux bénéficiaires, c'est celui qui est au patient. C'est celui qui est au front. C'est celui qui va aider autant les infirmières, les auxiliaires, les médecins, les personnels, le personnel d'entretien, les parents. Ben, en l'occurrence, à l'hôpital Sainte-Justine, ce sont des parents ou des grands frères et grandes sœurs. Mais dans d'autres hôpitaux, c'est vraiment les proches, donc les conjoints, conjointes. Donc, c'est vraiment la personne qu'on voit tout le temps, que le patient connaît. Et c'est toujours le même préposé. Hein. Il y en a peut-être sur le même chiffre, il y en a peut-être plusieurs, dépendamment des départements, mais c'est un peu comme... La personne qui est essentielle sur un département de soins, sans préposé, là, puis sans personnel d'entretien, c'est sûr, là, on peut pas fonctionner. Là, t'sais. Les infirmières peuvent toujours, être là, être présentes, mais il y a beaucoup d'infirmières là, sur un hôpital, donc ils peuvent dans un département de soins, donc ils peuvent quand même s'entraider. Et souvent, un préposé aux bénéficiaires, il est seul pour travailler. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très sollicité. Et moi, écoutez, ça m'a tenté de retourner travailler au début de la pandémie. Puis moi, je suis une personne à risque parce que je suis une grande asthmatique. Puis j'ai un petit bébé. Pas de garderie. Fait que j'ai pas pu. J'avais donné mon nom, mais on peut pas garantir une place en garderie à notre bébé quand on donne notre nom. Donc, ça a pas été facile, mais j'ai pas pu aller aider et mettre l'épaule à la roue. Mais
juste d'y avoir pensé, ça en dit long, dans les circonstances, puis malgré le problème d'asthme. Et le bébé, c'est récent quand vous dites un jeune bébé, il y a quel âge?
Il y a 11 mois.
Mais mon doux, félicitations, oui. Mylène Paquette. C'est quelle belle nouvelle. Est-ce que c'est votre premier enfant?
Oui, c'est notre premier bébé. Ben oui, c'est notre premier. Un petit garçon fantastique, il est super en forme. Il marche, il court partout à 11 mois déjà.
C'est beau, c'est des belles nouvelles.
Je vais peut-être attraper ça de moi.
J'ai envie de vous demander, Mylène Paquette, j'écoute, puis j'ai lu, je me suis beaucoup intéressé à vos aventures à l'époque. Puis est-ce que le fait d'avoir, parce que j'avais pas fait le lien avec le fait que vous aviez eu de la dyslexie, puis tout ça, puis peut-être manqué de confiance. Je sais pas si un jour vous vous êtes senti diminuer peut-être dans la perception que vous imaginez que les autres avaient de vous. Est-ce que ça vous a déjà servi de motivation? Tu sais, des fois, je vais vous le montrer, moi, comment je m'appelle. Non? Ou ça n'a pas fait partie?
Oui? Ben oui, tout à fait. Puis moi, je dis qu'il y a beaucoup de facteurs de motivation dans l'histoire dans mon histoire à moi. Puis il y a autant des facteurs de motivation comme l'ego. Tu sais, c'est un puissant moteur, l'ego. Quand je pense à mon père qui ne croyait pas que j'étais capable de faire un défi comme ça, ben dans chaque moment où j'étais vraiment là, c'était difficile pour moi, je me disais, ben non, il faut que tu prouves à ton père que tu vas y arriver. Tu sais, donc, il y a plusieurs facteurs de motivation, puis un de ces facteurs-là, c'était le fait que pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des milieux, tu sais, c'est quand même extrême. L'hôpital Sainte-Justine, c'était un hôpital où on voit les enfants les plus malades du Québec. C'est un hôpital où il y a des super pédiatres, des super médecins, des super infirmières. Et moi, j'étais en bas de l'échelle, tu sais, puis j'étais pas toujours, le préposé aux bénéficiaires, c'est pas la job la plus reluisante. C'est des gens qui sont vraiment dédiés aux patients, puis qui s'oublient beaucoup eux-mêmes. Alors, en évoluant dans ce milieu-là, un milieu d'extrême, je me cherchais beaucoup, puis en voyant de jeunes patients, dans la fleur de l'âge, là, entre 10 et 20 ans, décédés de différentes causes, mais surtout quand j'étais en hémato-oncologie, le voir des adolescents partir, mourir, je me disais, waouh, moi j'ai la santé, pourquoi moi je n'aurais pas cette santé-là et pourquoi je n'irais pas vers ce qui me tente, ce qui me plaît, ce qui m'attire dans la vie. Mais il y avait beaucoup aussi de, mon Dieu, tu sais, les gens autour de moi, les collègues ne trouvent pas, n'avait pas tellement, c'était pas très honorable d'être préposé aux bénéficiaires. Donc, j'avais le goût, moi, de faire quelque chose d'extraordinaire, tu sais, quelque chose à ma mesure. Moi, je pourrais pas faire des études comme ça en biologie, puis en sciences humaines, puis en médecine, tu sais, je pourrais pas faire ça. Mais j'étais super forte, puis tu sais, je suis très polyvalente, puis je suis une fille intelligente, puis j'ai de la confiance et tout, puis je suis très willing pour faire des choses. Donc, ça, quand j'ai découvert la navigation, ça répondait à tellement d'aptitudes que j'avais, puis tellement de choses que je recherchais. Puis comme je vous faisais le lien aussi avec les enfants très, très, très malades dans la fleur de l'âge qui partaient, ben moi, j'avais une santé que je pouvais honorer, puis j'arrivais à l'aube de la trentaine, puis j'avais comme une urgence de vivre aussi. Donc, je pense que c'était vraiment, il y avait un terreau très fertile pour c'est ça que je rencontre cette grande passion-là, puis que je développe là, cette passion-là.
Oui. Quel bel entretien. On ne se tanne pas, on ne se lasse pas de vous entendre et d'échanger avec vous, Mylène Paquette. Merci beaucoup.
Merci. Très content de vous
voir. Moi de même. Salutations. Ben là, c'est une drôle de façon de dire saluer votre bébé à 11 mois. Non, mais embrassez votre bébé. Bonne fin de semaine et bonne chance.
Je vais embrasser notre bébé. On l'appelle le petit crapet. Donc, je vais embrasser notre petit crapet pour vous. Puis, je vais dire bonjour à mon chum.
Très bien. Saluez-le. Merci beaucoup, Mylène Paquette.
Puis, je veux juste répéter le livre. Là, c'est Non aux étiquettes, écrit par Martine Latulippe et Phil Poulain. Et puis, c'est tous les fonds. Là, le profit, en fait, va être versé à l'Institut des troubles d'apprentissage. Donc, c'est vraiment là qui vise à vraiment aider tous les gens là, qui ont des troubles d'apprentissage de tout âge. Donc, je leur souhaite vraiment là, de pouvoir aider beaucoup, beaucoup de jeunes avec ce livre-là.
Bravo, bravo à tous ceux qui ont participé. Merci à vous. Au revoir, Mylène.
Merci. Bye-bye.
Bye, Mylène Paquette.